attendu dans le centre de pays, 36 vers la région nantaise ou toulousaine, 30 vers les côtes de la Manche, 34 à Paris, 32 à Lyon. Et même si ce matin le ciel est assez voilé près des côtes de la Manche, des côtes atlantiques au sud de la Garonne et sur les côtes du Roussillon, après la dissipation de cette grisaille, le ciel restera un peu voilé mais lumineux. Et même si le mercure va baisser un peu à partir de jeudi, on va finir l'été sous le soleil pratiquement sur toutes les régions. Et les vacanciers vont pouvoir prendre le petit-déj dehors, profiter d'après-midi ensoleillé et de douces soirées en terrasse.
Merci,
à demain.
Merci, à demain. 9h05, vous écoutez France Inter.
Aujourd'hui sur France Inter, que valent les applications qui répertorient les aliments bons ou mauvais pour notre santé?
10h, Ali Rebéi.
Dans Grand Main Vous Fasse, on se demande quelle est leur fiabilité, comment les industriels s'adaptent-ils, les applis du type Yuka nous empêchent-elles de manger en paix? Standard ouvert au 01 45 24 7000 et dès maintenant sur l'appli France Inter.
Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne en mode interactif.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Augustin Trapenard,
Nicolas Demorand,
Boomerang.
Boomerang, sixième saison avec la romancière Léonora Miano, c'est parti. Donc le jour de la mort de Toni Morrison, je me suis souvenu de ce jour où je lui avais demandé ce qui lui faisait peur dans la vie. Elle m'avait regardé longuement, elle avait pris une grande inspiration. Elle m'avait raconté qu'elle était allée un jour, beaucoup plus jeune, dans la maison de William Faulkner, dont elle était spécialiste, une maison dans le sud des États-Unis qui était gardée par un vieil homme noir. Et qu'encore aujourd'hui, elle gardait en mémoire le regard de cet homme. Un simple regard qui lui avait dit, ce jour-là, tout ce qu'elle était devenue et tout ce qu'elle avait perdu. Peut-être même tout ce qu'elle avait trahi par ses études, par sa réussite, par sa bourgeoisie. C'était très fort comme anecdote, mais à ce moment-là, elle s'était reprise, Toni Morrison. Et avec l'humour qui la caractérisait, elle m'avait dit non, en fait, c'est pas ça qui m'a fait le plus peur dans ma vie, mais ça a aussi quelque chose à voir avec le regard. C'est au Louvre que j'ai eu la peur de ma vie, figurez-vous. Dans ce musée, on m'a regardé encore, avec encore plus de violence que le vieil homme de la maison de Faulkner. Sauf que c'était pas un homme qui me regardait, c'était une femme, sur un tableau. C'était Mona Lisa, la Joconde. Vous connaissez? Alors j'avais rigolé, mais un peu plus tard dans la journée, ça m'avait pétrifié.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle joie de vous retrouver, d'entamer ensemble cette sixième saison de cette émission avec celle qui, depuis 14 ans, élargit notre champ de vision en écrivant depuis les marges de notre société, en réinventant livre après livre, identité, corps, désir. Rouge Impératrice, son très beau dernier roman vient de paraître. C'est une grande histoire d'amour dans une Afrique du futur prospère, autonome, unifiée. Une Afrique qui a rarement été ainsi regardée. Bonjour Léonora Miano.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là.
Merci de m'inviter,
avec
je suis ravi.
Qu'est-ce qu'on fait du regard de l'autre? Tiens.
Ah, qu'est-ce qu'on fait du regard de l'autre? On en tient compte parce qu'on est en relation avec l'autre, mais sans qu'il devienne pour soi central.
Dans le regard de Toni Morrison, vous voyez quoi, vous?
Ah, dans le regard de Toni Morrison, je vois et j'ai vu énormément de choses parce que c'est un regard qui a transformé ma vie. Moi, je suis arrivée dans le monde fille, mais mal aimée par les femmes de mon entourage. En tout cas, c'est le sentiment que j'en avais. Je me sentais pas aimée, accompagnée, guidée. J'avais un puissant désir de recevoir des femmes une parole comme ça, un petit peu presque secrète. En tout cas, un enseignement peut-être légèrement mystique. Et c'est chez Morrison que je l'ai trouvé.
Vous dites parfois même, Léonora Miano, que ces livres vous ont sauvé.
Oui, ils m'ont sauvé parce que je l'ai découverte alors que j'étais une jeune femme en train de construire sa vie. J'étais devenue maman très tôt, à 22 ans. J'avais arrêté d'aller à l'université après avoir reçu de ma mère un coup de fil me demandant ce que je serais dans la vie si je n'avais pas de doctorat. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'aller à la fac juste pour avoir un doctorat, je vais y aller. Et donc j'ai arrêté comme ça. Et donc j'étais maman à 22 ans, mais aussi SDF et sans papier. Donc des choses lourdes à surmonter. Et j'ai découvert Morrison à cette époque-là, où j'étais en train de me construire ma vie de femme.
Mais comment est-ce qu'un livre peut sauver?
Ben, un livre sauve en vous présentant des figures féminines qui affrontent la vie.
Sur quoi il agit? Sur quelle partie de nous? Est-ce qu'il exerce un pouvoir?
Sur la compréhension qu'on a de soi-même. Pas seulement du monde qui nous entoure, mais de soi-même et de ses potentialités.
Sur notre imaginaire, alors?
Sur notre imaginaire.
Dans Rouge Impératrice, Léonore Amiano, justement, vous nous plongez dans un monde où le continent africain est parvenu, après des années de lutte, à devenir, je le disais, autonome, puissant, unifié. Vous écrivez que les premières batailles avaient d'abord été celles de l'imaginaire, celles d'une reconquête du champ des possibles par la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire surtout qu'on est en plein dedans et que Rouge Impératrice fait ça. mais ça veut dire que le monde qu'on est capable de bâtir autour de soi ressemble d'abord à ce qu'on a pensé, à ce qu'on pense de soi, à ce qu'on a rêvé de soi. On ne peut pas créer quoi que ce soit si on ne l'a pas imaginé. Et donc, une Afrique du futur, prospère ou pas d'ailleurs, il faut d'abord qu'elle naisse dans des esprits.
Alors justement, aujourd'hui, en 2019, par quelle pensée, par quelle vision, par quel projet est-ce que vous avez le sentiment que le continent africain soit porté, Léonore Amiano?
Très honnêtement, je ne peux pas répondre de manière claire à cette question, parce que je ne suis pas sûre que le continent, pris comme ça, de façon globale, soit porté par un projet. Si on parle en tout cas des personnes qui le gouvernent. Maintenant, si on s'intéresse aux populations, notamment en Afrique subsaharienne francophone, on voit que la jeunesse est très très habitée par ce désir de panafricanisme et justement de se fédérer. Mais qu'elle n'est pas vraiment... guidée aujourd'hui par des personnes qui pourraient montrer comment faire ça.
C'est ça que vous faites advenir par la fiction dans ce livre?
En tout cas, une possibilité de ça, parce que l'Afrique est un continent si divers que dire panafricanisme tout seul, ça ne suffit pas. Il faut voir comment on peut imaginer ça. Les cultures, quoi qu'on dise sur ce continent, sont extrêmement différentes. Un Dinka du Soudan ne comprend pas du tout la vie d'un Douala du Cameroun. C'est pas du tout naturel, et c'est pas parce que ils seraient noirs tous les deux que ça se fondrait harmonieusement l'un dans l'autre comme ça. Il faut le construire. Oui, Rouge Impératrice essaie de faire ça, d'imaginer une possibilité afin que nous puissions en discuter. D'ailleurs, le roman s'ouvre avec une citation de Morrison qui dit ça, qui dit avant de prendre le pouvoir, en quelque sorte, rêver avant de penser. Donc rêver avant d'agir. Et Rouge fait ça. C'est pour moi le statut de ce roman, c'est ça. Je propose une sorte de rêve, mais qui nous permet de réfléchir au possible. Un matériau pour que nous puissions discuter de comment on peut faire concrètement.
Alors ce qui est intéressant, et c'est toute la jubilation de la fiction, Léonore Amiano, c'est un projet dans lequel peinent à s'intégrer certains Français que vous appelez les sinistrés, venus s'installer en Afrique subsaharienne après l'invasion de leur pays par des migrants. De quel fantasme est-ce que vous vous amusez là, de façon, je veux dire, assez jouissive?
Et d'abord, je dois déclarer à nouveau ma passion pour la France et pour les Français, tous les Français absolument. Et donc, mon grand intérêt pour ceux d'entre eux qui en ce moment sont absolument terrorisés par le fait que le monde entier vienne vers l'Europe et peut-être les menace, eux, de disparaître physiquement. Ils sont habités par cette peur-là du mélange, du métissage qui les amènerait donc à disparaître, la peur de se transformer sur le plan culturel. Et c'est quelque chose que bien sûr je comprends, je peux comprendre cette sensibilité. Mais enfin, l'Europe de l'Ouest a transformé le monde en s'y déversant.
Oui.
Hein? Elle est allée partout, elle a nommé les espaces, même les plantes, les gens.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce renversement que vous proposez de l'homme blanc, du statut de dominant à celui de dominé, du statut de colon à celui de migrant?
Ce qui se passe surtout, c'est que ça nous permet d'interroger les relations que nous avons les uns avec les autres aujourd'hui et la manière dont nous habitons les uns et les autres nos intériorités. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que l'Afrique et l'Europe sont entrées dans la chair l'une de l'autre il y a longtemps, et que ça va pas changer. Et que ça va pas changer, et que forcément, ça amène des altérations de part et d'autre, et que c'est notre décision aujourd'hui de les accepter, de les vivre bien. Or, on a très envie de s'en défendre, et d'essayer de préserver même quelque chose qu'on n'a pas connu en réalité. Parce que ce monde d'avant, on l'a pas connu. On est tous nés dans un monde qui était déjà cette hybridité, déjà ce mélange. Un monde où quand tu es français, le matin, tu te lèves, tu bois un chocolat ou un thé, un café, et ça pousse toujours pas chez toi. Et ça te raconte toujours cette histoire de rencontre. Ça te raconte que ta vie a changé parce que des autres sont venus. Peu importe la manière, au fond. Peu importe la manière.
Vous écrivez, le sinistre vers lequel il s'était dirigé au fil des siècles sans s'en apercevoir avait aussi eu sa source dans cette perception erronée de soi et des autres, l'invention de la race. Pouvait-on guérir d'une pathologie de l'âme si ancienne? À votre avis, Léonora Miano, le racisme, c'est une pathologie qui se soigne?
Ouais, j'espère que ça se soigne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle dans nos sociétés ici les minorités ethniques ont beaucoup ausculté leur vécu en la matière. Et que l'un pensait finalement est du côté blanc maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire de s'être pensé blanc? Qu'est-ce que ça fait aux êtres qui se pensent comme ça? Et est-ce qu'on peut sortir de ça? Je pense qu'on peut en sortir, mais à condition vraiment de l'interroger et de se demander ce qu'on ne veut pas lâcher quand on ne veut pas lâcher ça.
Ça veut dire que vous en faites quoi du moras? Vous l'interrogez sans cesse? Vous le mettez en question?
Ben, ce que j'en fais surtout, c'est que je crois pas à la race. Je crois vraiment que si ça n'avait pas été construit, parce qu'on voit très bien à quel moment ça a été construit, l'humanité s'est fréquentée beaucoup, hein, avant que ça ait du sens d'avoir une couleur. C'est-à-dire que quand on regarde les périodes antiques, on voit bien que les gens traversaient et que, ça n'avait pas, on n'était pas inférieur parce qu'on était noir, c'était tout à fait autre chose. Mais ça devient un sujet quand il faut, au moment des conquêtes coloniales. Et donc la race ne sert que ce projet-là, c'est quelque chose qui ne sert qu'un projet mercantile. Ce n'est que pour gagner de l'argent.
Vous envisagez un monde dans lequel il serait possible d'envisager que ce mot soit obsolète?
Oui, je l'espère ardemment. J'espère que nous imaginions un nouveau vocabulaire qui nous permette d'en sortir et de nous dire tel que nous sommes aujourd'hui et surtout tel que nous voulons être. Parce que en réalité, les personnes qu'on a qualifiées noires ne se pensaient pas telles. Il n'y a pas de personnes se pensant noires, par exemple, qui sont arrivées aux États-Unis à l'époque des déportations transatlantiques. Les gens étaient Serrères, Moulouba, Yoruba, ils étaient tout et n'importe quoi, mais sauf noirs. Ils n'étaient même pas africains. Tout ça, c'est des constructions. La bonne nouvelle avec l'histoire des constructions, c'est qu'on peut défaire ça.
Oui.
Et on peut changer de langage et de manière de vivre ensemble.
Celle qui est une construction dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Léonora, et celle qu'on attend comme le Messie. Pourtant, on l'attend, le Messie, dirait Amélie Nothomb, c'est la culture et son actualité dépassée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 26 août? C'est-à-dire que quand la musique est bonne, les streams s'additionnent, sonnent. Il faisait partie des derniers irréductibles gaulois à résister au streaming. Mais vendredi, l'iconique Jean-Jacques Goldman est enfin allé au bout de nos rêves en faisant une entrée fracassante sur toutes les plateformes en ligne. Résultat, sur le podium Spotify de ses titres les plus écoutés en 3 jours, on trouve le mythique « Quand la musique est bonne, je te donne ». Et puis là-bas, plus surprenant, la plateforme suédoise révèle aussi que plus d'un tiers des écoutants ont moins de 28 ans. Allez Jean-Jacques.
Paris outragé. Paris brisé, mais Paris libéré.
Libéré, délivré, inauguré, 75 ans exactement après la libération de Paris, la capitale a inauguré hier les bâtiments du nouveau musée de la libération Général Leclerc Jean Moulin, place d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement. Clos du spectacle, la visite du poste de commandement souterrain, un vrai bunker à 20 mètres sous terre, d'où la résistance a piloté les opérations de reprise de la ville à partir du 19 août 1944. Un épisode de l'histoire à redécouvrir grâce à la réalité virtuelle, notamment.
Mais c'est merveilleux! Imagine, éduquer des enfants à être libres!
Angoulême comme on l'aime, le festival du film francophone d'Angoulême s'est clos hier soir sur le sacre de réalisatrices inspirantes. Zabou Breitman et Léa Gobé-Mévelec repartent ainsi avec le Valois de Diamant pour les Hirondelles de Kaboul, inspiré du roman de Yasmina Kadra, tandis que Mounia Medour a été récompensée du Valois du public et de celui du scénario pour Papicha, sa fresque algérienne pleine de jeunesse et de révolte. Enfin, la jeune Afsia Herzi a reçu le prix de la mise en scène pour son beau premier film Tu mérites un amour. Go girls!
Worth it, let me work it. I put my thing down, flip
Back to Work. La reine du hip-hop américain Missy Elliott est enfin de retour avec du lourd. Près de 14 ans après son dernier projet solo, elle vient de révéler Iconology, un mini-album de 5 titres accompagné du clip acidulé du morceau Throw It Back. Ce soir, par ailleurs, lors de la grande cérémonie des MTV Video Music Awards, Missy Elliott recevra le Michael Jackson Video Vanguard Award, prestigieuse récompense pour saluer 30 ans d'une carrière iconique flamboyante. Big up Missy. Et la romancière Léonora Miano, invitée de Boomerang ce matin.
Et ravie d'être là.
Ah ouais, abonne-moi aussi, hein, pour Rouge Impératrice. Événement de cette rentrée littéraire dans lequel vous nous proposez, on l'a compris, de faire un saut d'un siècle dans le temps. Ce nouveau monde dont les équilibres actuels ont été bouleversés, il ressemblerait à quoi? Tiens.
Ben, il ressemble, c'est dans mon idéal, hein, ce serait un monde où chaque pôle culturel, géographique, tout ça, exprime sa singularité sans qu'on ait besoin de se piétiner les uns les autres. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible.
C'est-à-dire que demain, ça ne vous angoisse pas, somme toute?
Non, je trouve que demain, c'est excitant, à condition qu'on décide d'inventer autre chose et de ne pas perpétuer ce qui nous oppresse tous aujourd'hui et nous limite tellement. Puisque je crois que nous sommes la même humanité, mais simplement qui s'est donné des codes différents selon les endroits. Mais moi, depuis que je suis en France, j'ai pas rencontré des humains fondamentalement différents de ceux qui sont en Afrique. Je rencontre seulement des personnes qui obéissent à des codes sociaux différents. Mais quand on est fou amoureux, ou que ce soit, on est fou amoureux. Quand on est jaloux, on est jaloux. Quand on est fou de désir, on est fou de désir. La seule différence réside dans la manière dont culturellement on exprime ça, mais le sentiment lui-même est toujours le même.
Dans votre Afrique unifiée, j'ai remarqué qu'on n'avait pas échappé à la révolution technologique. On croise des drones, des dispositifs de reconnaissance faciale, des hommes capables de se téléporter. Et dans ce monde de demain, je me pose la question, quelle place pour un objet aussi archaïque que le livre, Léonora, que l'objet livre, dont vous prédiez d'ailleurs, pour ainsi dire, la disparition?
Bah, j'espère pas quand même. Il y a une bibliothèque dans l'université où travaille Boya, et elle est tout à fait rustique, cette bibliothèque, elle est tout à fait traditionnelle. Et je suis pas allé si loin que ça dans mes développements technologiques, parce que tout ce qui est dans le livre existe déjà aujourd'hui, et que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais pas tellement fan d'aller plus loin, quoi. Je ne nous rêve pas cyborg, j'ai pas forcément envie de ça.
La téléportation, c'est un délire quand même, Léonora.
Mais la téléportation, alors, comme j'ai quand même écrit ce roman aussi avec les aspirations des jeunes Africains avec lesquels je travaille souvent, et puis un peu leur fantasme aussi, certains ont vraiment le sentiment qu'il existait dans leurs cultures ancestrales des super pouvoirs qu'il serait bon de réactiver, et la téléportation en fait partie. Pour eux, c'est ancestral et non pas du futur. C'est juste qu'on ne sait plus comment le faire aujourd'hui. Mais par exemple, au Togo où je vis en ce moment, les gens sont persuadés qu'il existait une espèce d'amulette qui permettait de faire ça. Donc pour les Africains, ce qui vous semble, ce sera complètement naturel et normal. En fait, ils sont persuadés de savoir le faire.
Pour vous, c'est quoi un livre, en fin de compte?
Là, est-ce que je peux répondre de façon intelligente à cette question?
Oh, c'est toujours intelligent, toi, non?
Ah, c'est plein de choses, hein, c'est plein de choses au-delà de l'objet, parce que j'appartiens à une génération de gens qui ont grandi avec peu d'écran, voire sans écran. Et donc, pour nous, le divertissement, c'était écouter vraiment des albums de musique entiers, ne faire que ça, écouter un disque, ou alors lire des livres. Et donc, le livre, c'est à la fois un compagnon, à la fois, un véhicule pour voyager, à la fois un outil pour réfléchir, mais pas seulement réfléchir à des questions intellectuelles, aussi spirituelles. Et puis c'est quelque chose qui apporte du réconfort. J'ai beaucoup de livres et j'aime la présence physique de mes livres.
Ça a toujours été le cas.
Ça me fait du bien.
Pour vous?
D'avoir beaucoup de livres?
Non, surtout d'avoir du réconfort par l'écriture d'un livre, Léonora Miano.
Oui, parce que c'est arrivé très tôt dans ma vie. Et que c'est vraiment arrivé de cette manière-là, quelque chose qui apportait du réconfort. J'ai commencé à écrire Petite fille pour me réconforter.
En fin de compte, c'est pour ça que vous écrivez des livres?
Plus aujourd'hui. plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'amuse beaucoup. Mais au début, c'était ça, besoin de s'exprimer, de se réconforter. Et besoin aussi de revenir à un sentiment de puissance que j'ai éprouvé la première fois que j'ai écrit, parce qu'on m'a pas coupé la parole, que j'ai choisi mon langage, que j'ai pu faire absolument ce que j'avais voulu, même si la personne à laquelle je destinais cet écrit ne s'en est pas souciée. Moi, j'ai gardé à l'intérieur de moi la sensation de liberté et de puissance. Et je pense qu'avoir écrit beaucoup pour y revenir à cette sensation.
Longtemps. Ça, c'est réconfortant.
Ben ouais.
Bah alors, on va continuer à se faire du bien, hein, tous les deux, à se réconforter.
Bah oui, vous avez du goût, là, les premières notes.
Avec Donny Hathaway, A Song For You, 1971, l'une des plus belles chansons d'amour de toujours.
Je suis d'accord.
Ah, vous n'inspirez que de la joie. Vous êtes sur France Inter. Léonora Miano, vous écoutez Boomerang, évidemment.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad ones. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. We're alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, holding nothing. You came out in front, but I was hiding. Don't come together. Listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone. I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Avec sa voix grave et profonde, on aimerait qu'elle se penche au-dessus de notre berceau, façon bonne fée ou louve antique, vous savez, pour nous bercer vers un monde meilleur, regard mystique, port de tête antique, sourire tantôt aimant, tantôt impitoyable. On l'aime comme on la craint quelque part entre Toni Morrison, Laura Adler et Sissi, avec sa robe rouge et son collier de perles orange, la romancière Léonora Miano, invitée de Boomerang ce matin pour Rouge, impératrice. Ce roman à l'origine duquel il y avait, avant même d'évoquer le politique, l'envie d'écrire, je reprends vos mots, une histoire d'amour. Exactement. Pourquoi une histoire d'amour?
Bah, parce que je voulais écrire un feel-good novel pour, pour les filles de mon âge, femmes accomplies.
Alors, feel-good novel, ça voudrait dire un roman, on sent bien.
Ouais, voilà, bien. Mais qui, voilà, qui fasse du bien aux filles, aux femmes accomplies que l'amour n'a pas encore trouvé.
Mais c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Ça existe une histoire d'amour qui se passe bien?
Ben, dans mon livre, oui. Ben, ce qui est surtout important dans la vie, c'est que l'histoire d'amour se passe. Hein. Moi, c'est la grande histoire de ma vie, donc je recommence toujours. J'y crois et j'y vais à fond. Et je fais ça comme dans la chanson My Way, vraiment à fond. Je fais tout à fond. J'ai un vrai bélier pour ça. Mais bon, c'était ça. Écrire une histoire d'amour entre des personnages africains, une histoire d'amour et de... Et comment dire, et de complicité oui. Intellectuelle aussi.
Oui, parce que le livre est aussi, et peut-être même surtout, l'histoire de relations qui se nouent entre plusieurs femmes. Mm. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la force du féminin, Léonora Miano?
Ah, ce qui ferait la force du féminin.
Ah.
Ce que je, hein, ce qui ferait la force du féminin, ce serait déjà de mieux s'appréhender et de se connaître comme une puissance souveraine. C'est-à-dire que, le féminin ou le masculin, si vous voulez, c'est comme l'eau et le feu. On ne compare pas ces énergies. Mmh. Elles sont, et il se trouve que quand elles se rapprochent l'une de l'autre, ça produit ceci ou cela. Mais elles sont souveraines.
Je vous
elles
écoute.
Sont souveraines. Et je pense que le féminin aujourd'hui méconnaît sa souveraineté.
Mais pourquoi est-ce que, lorsque d'aucuns s'aventurent à vous décrire comme une auteure féministe, vous vous en défendez toujours? Qu'est-ce qui vous embarrasse dans le mot féministe? C'est un gros mot.
Il y a plein de choses qui me dérangent. J'aime pas, en général, que ce soit en tant que femme ou en tant que noire, par exemple, toutes les façons de me présenter qui m'amèneraient à me placer en situation d'infériorité par rapport à un pouvoir qui me dominerait. Je ne me sens pas dominée. Mmh. Je n'avance pas dans la vie en ayant le sentiment d'appartenir à une catégorie sinistrée parce que j'ai une trop forte conscience de mon individualité. Mmh. Et que donc, que ce soit en tant que noire ou en tant que femme, non, je ne suis pas un être dominé.
Et la sororité?
Ah, la sororité serait une belle chose.
Ça passerait par quoi?
Bah, ça passerait déjà par le fait que les femmes aiment être des femmes et aiment a priori les autres femmes. Et ici, je ne parle pas d'un sentiment, je parle d'une attitude.
Qu'est-ce qui explique cette défiance des femmes, les unes envers les autres?
L'habitude que l'homme soit au centre et l'habitude qu'on doive être rival pour gagner ses faveurs, que ce soit dans le domaine public ou dans l'intimité. Mettez un homme entre deux femmes, par exemple dans les relations amoureuses, lorsque un homme fréquente deux femmes. Comment se regardent-elles l'une l'autre? En général, elles ne te disent pas que c'est la faute du mec. C'est toujours la faute de l'autre nana. Alors qu'en général, le problème, c'est le mec.
À vous entendre, Léonora Miano, c'est une autre dimension. Les mots ont une couleur. Et celui-ci, ce mot féminisme, il est blanc. En quoi la langue est-elle, selon vous, habitée par le spectre de la domination coloniale, blanche, occidentale?
Une partie de la langue, en tout cas. Parce que même dans cette langue, féminisme n'a pas toujours existé. Et cela se crée, le terme émerge à un moment où les occidentales ont besoin de formuler leur revendication, de parler de leur situation à l'égard du masculin. Mais ce n'est pas parce qu'elles le font dans ces termes, dans leur espace, que ça concerne absolument de la même manière toutes les femmes du monde. Les femmes du monde ont leur mémoire, ont leur propre lutte qui ne sont pas nécessairement celles-là. Le féminisme, c'est la question de l'égalité, d'abord, entre hommes et femmes.
Alors, ce serait possible de décoloniser la langue, justement, et ce mot?
Et ce mot féminisme? Mais faut-il décoloniser le féminisme? Il faut qu'il soit, mais qu'il y ait d'autres paroles de femmes et d'autres manières de dire les autres expériences de femmes, y compris quand elles sont des expériences de combat.
Mais parce que tout passe par la réinvention de la langue, c'est ce que vous nous dites sans cesse, Léonora.
Mais la réinvention de la langue, c'est pas seulement l'idée de décoloniser, par exemple, c'est aussi d'apporter un nouveau lexique.
Ce que vous faites dans Rouge Impératrice.
Voilà, d'apporter un nouveau lexique, d'apporter d'autres possibilités de dire, et peut-être de rendre certains termes aussi obsolètes. Moi, je rêve de l'obsolescence des termes blanc et noir, par exemple, pour la race. Ces histoires-là, j'aimerais beaucoup qu'on dépasse ça. Mais il faut le dépasser au niveau du langage. Mais je voulais dire une chose sur la question de l'égalité homme-femme. Hein, il s'agit donc d'une égalité en droit. Et bien sûr, tout le monde est pour ça. Moi, je suis pas anti-féministe, même si je suis pas féministe, je suis pour ça. Mais c'est une égalité en droit. Dans l'absolu, est-ce que cette égalité existe? Moi, dans l'absolu, je dirais que je me sais, et depuis longtemps, supérieur à beaucoup d'hommes. Et c'est comme ça, je suis supérieur à beaucoup d'hommes. Et ils ne seront pas mes égaux. Hein? Donc, quand on parle de cette égalité, il faut bien avoir conscience que c'est une question de droit et que là-dessus, bien sûr, on peut légiférer et faire appliquer la loi.
Repenser la langue, c'est un projet que vous défendez dans un texte que vous nous avez écrit pour conclure cette émission. Un texte inédit, intitulé « L'autre langue des femmes » qui fait la synthèse de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et qui s'inspire d'une gravure de la reine Zinga qui a régné au XVIIe siècle sur les royaumes de Ndongo et de Matamba dans l'actuelle Angola et qui a rencontré le gouverneur portugais. Gravure iconique, texte inédit, on vous écoute. Léonora Viano.
Alors, la reine Zinga doit s'entretenir avec les émissaires de la couronne portugaise. Il n'a pas été prévu de siège à son intention. Il faut prendre place à même le sol ou rester debout. Ses interlocuteurs sont hommes, assis et blancs. Ce dernier qualificatif restituant surtout leur vision d'eux-mêmes. Ce qui se joue dépasse les individus impliqués. Il s'agit de déterminer le statut des groupes humains. Nziga s'assied sur le dos d'une servante agenouillée. La gravure célèbre qui immortalise ce moment présente la subalterne à quatre pattes. Laquelle de ces femmes incarne la puissance? La reine, qui affirma son autorité et sa légitimité sur ses terres ancestrales? La servante sans laquelle il n'y aurait pas eu de souveraine, seulement l'être inférieur que voulaient voir les étrangers? La puissance émane-t-elle du corps que forment ensemble ces deux femmes? Pour cela, il aurait fallu une entente entre elles. Plus qu'un équilibre, une égalité fondée sur la reconnaissance de l'une par l'autre. La scène est muette. Cependant, l'histoire a répondu à la question qui m'obsède. L'histoire n'a retenu que le nom de la reine, pas celui de celle qui, offrant son corps, son silence et son endurance, permit qu'un peuple ne soit pas humilié. Et si l'histoire ne glorifie que Nzinga, c'est parce que la parole féminine la plus audible est habitée par la centralité du masculin. Nzinga est glorieuse parce qu'elle défie les hommes, les bat à tous leurs jeux. Nzinga est une héroïne parce qu'elle mérite ce titre, mais aussi parce que nous n'avons de la puissance qu'une vision virile et verticale, même dans la parole des femmes. Je cherche une autre langue des femmes, un langage étouffé, une parole qui ne s'énonce pas en isme, une voix qui dise d'abord la souveraineté du féminin et du masculin, avant d'évoquer leurs possibles relations.
Merci, Léonora Miano.
Merci, Augustin Trapenard.
Merci infiniment pour ce texte et merci d'être venu inaugurer cette nouvelle saison.
Ah oui, je suis ravie.
Je rappelle que Rouge Impératrice, c'est publié chez Grasset, c'est ambitieux, c'est palpitant, c'est jubilatoire souvent. C'est incontestablement l'un des plus grands romans de cette rentrée. Tout de suite, Les Médias, Sonia De Villa, juste après ça.
Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos, posé des côtés. Nous n'avons plus peur de rien. Nos paniques, mots magiques, des réponses à nos questions. Si je suis largué maintenant, je sais, je pourrais poser ma main sur ton épaule. Logique, organique, jamais je te tournerai le dos. Nous n'avons plus peur de rien. Si t'as des hésites, c'est bon.
tes côtés, Malik Judy Etienne Dao sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec l'Instant M qui fait sa 6e rentrée. Elle est sur les starting blocks, elle vous promet des paillettes, des moulures au plafond. Avec elle, c'est Ibiza. Salut Sonia.
Salut Augustin, ça commence bien la saison.
Bah ouais.
À demain.
À demain.
Ciao.
Top, c'est parti. Comment ça marche le journaliste?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, pétante sur France Inter et je suis très heureuse de retrouver l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Takis Candilis est le super patron des programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France O, mais aussi du site France.tv sur lequel on regarde la télé en différé. Cette saison est une saison clé, les amis. C'est la première grille qui porte vraiment la patte Takis Candilis et il a eu la main lourde. Quantité d'émissions supprimées, modifiées ou transférées d'une chaîne à l'autre. En outre, c'est la saison marquée par les économies qu'exige le gouvernement. Un serrage budgétaire pile au moment où les Américains nous foncent dessus à coups de production audiovisuelle mirobolante disponible sur Netflix et autres. Alors, Takis Candilis, on fait comment pour continuer à faire exister les programmes français quand on a à ce point des oursins dans le porte-monnaie?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Alors oui, l'Instant M, c'est Sonia De Villers, mais c'est aussi Redouane Tella, le boss de cette émission, Marion Philippe à la préparation et Anne-Cécile Perrin, notre nouvelle réalisatrice que je suis très heureuse d'accueillir à ce poste. Bonjour Takis Candilis.
Bonjour.
Ça va, ça pique pas trop dans les poches?
Non.
On va en parler. On va en parler. Tout l'enjeu, c'est de comprendre, parce que vous voulez transformer vraiment les grilles de France Télévisions en ce moment et vous transformez vraiment la maison, main dans la main avec Delphine Ernotte, votre PDG. Tout l'enjeu, c'est de comprendre si vous mettez France Télévisions dans les starting blocks pour faire face aux plateformes américaines ou si tout simplement vous coupez des têtes et vous serrez des vis budgétaires à peu près à tous les étages. On commence, 6 jours de grève, 6 syndicats de France Télévisions se sont mobilisés. Aujourd'hui, c'est un jour de grève en cette rentrée de l'audiovisuel de votre côté à France Télévisions pour protester contre ça.
Pour ce dernier soir 3, le dernier soir 3 semaines, nous nous retrouvons ici en régie, c'est la tour de contrôle des journaux télévisés et je ne suis pas seul parce qu'il y a évidemment de l'émotion pour ce dernier soir 3. Il y a mes confrères, les équipes techniques, tous ceux qui contribuent à la réalisation d'un journal qui sont aussi sur le plateau. J'aurais laissé la place pour ce soir. C'était donc le dernier soir 3 semaines après 41 ans d'existence sur la troisième chaîne, puis FR3 et France 3, un journal emblématique.
Voilà, le soir 3 a quitté France 3, le JT de 23h prendra le relais, si j'ai bien compris, sur la chaîne Tout Info France Info, du groupe. Voilà, grève, pile le jour où le président de la République vous accorde sa première interview, en tout cas l'accorde à Anne-Sophie Lapix au JT de 20h.
Non, mais je crois qu'il n'y a pas de concomitance et c'est pas l'objet. Ça tombe pas très bien, mais il y a un G7 et puis il y a aussi la mutation de notre entreprise qui doit, et je reprends un peu ce que vous avez dit. Vous avez parlé, on est en opposition ou avec les plateformes américaines. C'est pas uniquement ça.
Ouais.
C'est que les usages sont en train de changer. Mmh. Nos consommateurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs sont eux aussi en train de changer. Et leurs usages, la manière qu'ils ont de consommer les contenus est en train de changer. Et c'est là-dessus qu'on doit se mettre complètement.
La suppression du soir 3 des antennes de France 3, précisément, c'est des mesures d'économie ou c'est on réadapte des chaînes de télévision aux usages des consommateurs d'aujourd'hui? C'est les deux?
C'est aussi les deux.
Mais
les économies, non, puisque le soir 3 va rester dans sa formule actuelle, en tout cas avec ses équipes à l'intérieur de France Info. Ça va être la grande émission qui va s'appeler le 23h. C'est aussi pour nous une manière de réorganiser la structure de diffusion et d'éditorialisation de France Info, avec des rendez-vous politiques, des rendez-vous de journaux très organisés.
Ouais.
Et en même temps, c'est repenser nos offres linéaires. Je sais que c'est un terme un peu barbare.
Ah, linéaire, c'est la chaîne de télévision, quoi, avec les programmes
linéaire,
les uns après les autres.
C'est la programmation éditorialisée qu'on retrouve vers aussi, parce qu'on doit réduire notre emprise de cette télévision linéaire pour aller vers
le numérique.
Le numérique, qui est ce qui se consomme tous les jours.
Vous savez, on va en parler.
On a perdu 900 000 téléspectateurs. Les soirs, tous les soirs, de l'année dernière par rapport à l'année d'avant.
900 000 téléspectateurs,
pas que nous, l'ensemble de la télévision française.
Donc, il y a 900 000 personnes de moins qui regardent la télévision chaque soir l'année dernière.
Et d'ailleurs, cet été, on voit bien que les après-midi jusqu'à l'avant-soirée ont été très très puissants. On a fait un été extraordinaire à plus de 31,5% de part de marché groupe France Télévisions, devançant largement nos concurrents. Mais à partir de 21h, il y avait le choix s'offre au public. Est-ce que je vais regarder en différé?